Bon, bonjour tout le monde. Je suis très heureux d'être là aujourd'hui donc pour commencer cette série de cours et de séminaires pour plusieurs raisons. La première, parce qu'on va aborder, quelques aspects d'une chose qui fascine les chimistes, qui est l'évolution de la vie, d'abord l'origine de la vie et l'évolution de la vie, démarrée il y a plus de 3 milliards d'années, 3,5, 3,8, et aujourd'hui évidemment très, très complexe, mais avec une complexité qui a été élaborée très tôt. Alors, cette histoire-là, évidemment, ce n'est pas un cours sur l'origine de la vie, c'est un cours sur quelque chose de très, très particulier, qui est que j'ai appelé l'origine de l'ADN. Pourquoi ? Parce que c'est la deuxième raison pour laquelle je suis évidemment très content d'être là aussi, c'est parce que nous allons partir vers la description de tout un tas de systèmes enzymatiques absolument fascinants et d'une très, très grande complexité sur le plan du notamment de leur structure et de leur mécanisme d'action, de leur chimie. On va appeler les ribonucléotides réductases, qui sont des enzymes qui sont responsables de la biosynthèse des désoxyribonucléotides, qui sont les précurseurs de l'ADN. Comme vous allez le voir, il n'y a pas de vie sur Terre sans cette étape de transformation des ribonucléotides en désoxyribonucléotides. En faisant ce parcours, on va tomber sur quelque chose qui est assez extraordinaire, qui est que on va s'apercevoir que la nature a choisi de mettre en œuvre ce qu'on appelle une chimie radicalaire avec l'intervention d'espèces radicalaires que je vais définir extrêmement réactives, extrêmement instables, pour faire une chimie très très fine, très sélective, et y compris, comme dans le cas de la biosynthèse de l'ADN, pour des processus biologiques d'une très très grande importance. On va s'apercevoir aussi que cette chimie-là, elle ne concerne pas que les ribonucléotides réductases. On va voir qu'il y a une absolue nécessité de passer par des radicaux pour réduire des ribonucléotides en désoxyribonucléotides, les précurseurs de l'ADN. Mais on va voir que cette chimie-là, qui a sans doute été découverte très tôt, est tellement utile que la nature l'a conservée et l'utilise aujourd'hui dans des milliers de réactions métaboliques et des réactions de biosynthèse. Je crois que je vais dire à un moment donné que c'est une des grandes découvertes dans le domaine de la chimie enzymatique que cette grande famille d'enzymes radicalaires. Voilà, d'où le titre de l'ensemble de ces cours et séminaires. C'est de la chimie biologique, on va parler de chimie, mais c'est de la chimie du vivant. On va parler de radicaux, ça va être au cœur de la discussion, donc là ça va être un peu pointu. On va parler de l'origine de l'ADN et métabolisme d'aujourd'hui, parce qu'on va aussi parler, à travers les cours et les séminaires, de réactions enzymatiques qui ont lieu dans le métabolisme aujourd'hui, chez les organismes vivants, et qui sont d'une très grande complexité. Alors, il y a différents niveaux dans ce que je vais raconter. Je vais raconter des choses peut-être relativement simples au début, d'ailleurs qui vont être complétées par ceux qui présentent les séminaires. Et puis, je considère que les systèmes enzymatiques dont je vais parler sont parmi les plus complexes sur le plan structural et fonctionnel qui existent dans le vivant. Voilà, alors j'espère que en me suivant, vous allez apprécier cette complexité. Je vais essayer de la rendre compréhensible, audible. Alors, je vais encore dire une fois, je commence par ça, je crois que je l'ai présenté, cette diapositive, chaque année. Je ne parle pas de chimie prébiotique. Mon cours n'est pas... On peut construire un cours, peut-être j'ai ça en tête un jour, de parler de toutes ces questions, comment se font les premières étapes de la vie. Et je présente cette diapositive pour dire à nouveau à quel point cette magnifique expérience de Stanley Miller, qui a des tas de défauts, a été pour moi une chose très importante dans mon choix en particulier de m'intéresser à la chimie du vivant. c'est cette expérience qui, on pourrait prendre exemple sur cette approche de Miller pour tous les chimistes qui sont intéressés par la question comment a démarré la vie, comment, dès lors qu'on a en tête l'aspect moléculaire des choses. Donc vous vous souvenez, c'est ce système qui a permis, à partir d'un mélange de gaz, alors encore une fois, qui n'est peut-être pas le plus approprié, on pourra en discuter, mais de produire par effet de température et d'irradiation diverses tout un tas de molécules du vivant. Donc ce n'est pas de cette étape-là. On va parler d'une étape beaucoup plus tardive dans l'évolution, qui est donc l'arrivée de l'ADN à la surface de la Terre. On va en parler pendant ce cours, et puis on va en parler avec Patrick Forter, que je vais présenter tout à l'heure. Parce qu'on va, je crois que c'est, il y a deux notions qui sont extrêmement importantes. C'est un, que l'ADN est un produit tardif de l'évolution, et on verra comment on y arrive. Et d'autre part, que l'ADN existe malgré tout avant l'oxygène moléculaire, sachant que l'oxygène moléculaire est aussi un produit très très tardif de l'évolution. Ici, j'ai très schématiquement présenté une échelle de temps. On est ici, il y a 1,2 milliard d'années, les organismes multicellulaires arrivent, mais les eucaryotes, c'est 1,5, et l'oxygène est arrivé avec la photosynthèse des prokaryotes, de certains prokaryotes. Et le niveau d'oxygène élevé qu'on a est à peu près autour de 2 milliards d'années. L'oxygène a démarré bien avant, mais a été consommé sur une très large gamme de temps par tous les réducteurs présents à la surface de la Terre, et en particulier le fer ferreux, qui est extrêmement réactif avec l'oxygène. Bon, la vie, c'est entre 3,5 et 3,8 milliards d'années, et l'ADN arrive plus tard. Donc, dans ce très petit laps de temps, le vivant s'est complexifié, et comme vous allez le voir, pour créer de l'ADN, il faut créer les précurseurs de l'ADN, et pour faire ça, et c'est vraiment de la chimie déjà très complexe, il est impossible d'imaginer, pour le moment, une chimie très simple, primitive, du type Stanley-Miller, pour produire de l'ADN dans des conditions très frustres, des gaz, des petites molécules, de la lumière, de la chaleur, etc. Comme on le verra, la transformation des ribonucléotides en des oxyribonucléotides demande une chimie extrêmement spécialisée, extrêmement difficile. Alors pour ce faire, voilà le plan de secours. Je le rappelle, vous l'avez vu, puisque vous êtes là. Je vais introduire cette notion d'apparition du monde à ADN. C'est une introduction. Ma spécialité, c'est la chimie enzymatique. Je vais introduire les ribonucléotides réductases. Mais là, vous avez la chance aujourd'hui d'avoir un séminaire par Patrick Forter après moi, qui est vraiment le grand spécialiste, je dirais même français, mais mondial, de toutes ces questions d'évolution et du passage du monde à ARN au monde à ADN. Il va sûrement trouver que certaines choses que je dis sont un peu simplistes. Il va les approfondir. Donc Patrick Forter est là, merci. Et comme vous le voyez, j'ai fait ça chaque année, donc le cours se présente sous la forme de cours, en effet. On appelle ça des cours, on peut appeler ça comme on veut, mais ensuite par un invité. Et voilà, la semaine prochaine, je vais parler de comment les précurseurs de l'ADN sont synthétisés chez les organismes aérobies, c'est-à-dire comme nous, et on verra que l'oxygène joue un rôle extrêmement important dans ce cas-là. Toutes nos cellules font de l'ADN parce qu'il y a de l'oxygène, c'est ce que je dirais. Marie-Christine Morel donc, nous donnera aussi sa vision chimique des transformations au niveau des ARN et des ADN. Ensuite, je parlerai de ce qui est vraiment, pour ce qui me concerne, une découverte extrêmement importante et qui va jouer un rôle majeur. C'est une découverte que nous avons faite au laboratoire et que je raconterai un peu l'histoire de cette découverte. et je dirai en quoi ça a introduit des choses très essentielles sur la compréhension de ce passage du monde à ARN au monde à ADN, et par ailleurs en quoi ça a ouvert, avec deux ou trois autres découvertes par ailleurs dans le monde, en Allemagne et aux États-Unis, ça a ouvert un champ fantastique sur la biocatalyse radicalaire. Henri Grosjean nous parlera de comment les ARN et les ADN sont modifiés, ça c'est extrêmement important. Et puis on aura quelques exemples avec ce que je vais raconter ici le 18 mai, avec l'intervention de Mohamed Atta qui va parler de réparation d'ADN, avec ce que je vais raconter sur la biosynthèse des produits soufrés et avec ce que Olivier Berthaud va raconter sur la modification des protéines et des ARN, toute cette chimie radicalaire très complexe qui est mise en œuvre aujourd'hui dans le métabolisme d'aujourd'hui. C'est la partie métabolisme d'aujourd'hui de mon titre. Voilà. Et à la fin, je terminerai sur quel est le système qui a permis qu'enfin on passe du monde à ARN au monde à ADN. Voilà. Alors, j'ai parlé d'ADN et puis tout d'un coup, j'ai parlé de monde à ARN. Donc, je vais introduire cet aspect-là, mais encore une fois, ça sera le sujet, je pense, de Patrick. Évidemment, parce que dans les théories de l'évolution, je crois qu'il y a à peu près, enfin, il y a cette idée à peu près bien établie que il y a eu un monde à ARN avant le monde à ADN. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un monde à ADN ou un monde à ARN ? Je veux dire par là que aujourd'hui, les organismes vivants stockent leur information génétique sur une molécule qui est l'ADN. Ça n'a pas toujours été le cas. Et si l'ADN est arrivé tardivement, ça veut dire qu'il y a eu des organismes vivants déjà très complexes qui nécessitaient donc d'avoir une molécule qui portait l'information génétique. Et l'hypothèse aujourd'hui à peu près acceptée par tout le monde, c'est que cette information génétique a été portée par l'ARN avant l'ADN. Et c'est ce monde-là, le monde à ARN, sur lequel a été construit la vie d'abord. Et vous voyez, ce monde à ARN, c'est un monde ici dans mon échelle. Alors vraiment, je n'ai pas été très précis dans le positionnement des différentes étapes, mais c'est probablement un moment assez court de l'évolution de la vie. Alors juste, parce que, excusez-moi, je rappelle des choses très simples, mais c'est quand même important, il faut rappeler ce que c'est que l'ARN et l'ADN. Donc ce sont des acides nucléiques, ce sont ces polymères qui sont une combinaison linéaire de monomères qui sont ces désoxyribonucléosides ou tides quand il y a des phosphates dans l'ADN, désoxy, et ribonucléosides ou ribonucléotides dans le cas de l'ARN. Alors, désoxyribo et ribo, pourquoi ? Parce qu'ici, il y a une partie sucre, ribose, dans laquelle vous avez cette liaison carbone-OH en position 2', ce carbone est le 2'. Et vous voyez que la différence est là. La seule différence entre ce polymère et celui-là, c'est la présence d'un atome d'hydrogène à la place d'un groupement OH dans l'ARN, atome d'hydrogène donc présent dans l'ADN. Différence minime, hein, mais qui va être déterminante. On va essayer de comprendre pourquoi. Différence minime, mais multipliée par des milliers de monomères, puisque c'est un polymère. L'autre différence, c'est qu'il y a un autre ribonucléoside. Il y a une différence aussi sur les bases nucléiques. Et en particulier, dans l'ARN, il y a de l'uridine. Vous voyez, c'est ce ribonucléoside qui contient cette base pyrimidique. Et dans le cas de l'ADN, il y a un groupement méthyle de plus, c'est la thymidine. Voilà donc les deux grandes différences chimiques entre les deux polymères. Alors le monde à ARN, qu'est-ce que c'est ? Très simplement, le monde à ARN, c'est un monde dans lequel il y a essentiellement de l'ARN comme polymère qui a deux fonctions. Une fonction de support de l'information génétique, ça on peut comprendre, les différences chimiques entre l'ARN et l'ADN ne sont pas telles qu'on ne puisse pas imaginer que l'ARN ne puisse pas être un porteur d'informations génétiques. D'ailleurs, les bases nucléiques, à part ce méthyl, sont les mêmes que celles qui existent dans l'ADN. Et donc, tous les mécanismes de stockage d'informations génétiques et de réplication peuvent s'appliquer à l'ARN, bien évidemment. La deuxième caractéristique, c'est que cet ARN aurait aussi une fonction de catalyse. On verra pourquoi. Et donc, c'est un monde extrêmement simple dans lequel l'ARN est à la fois le support de l'information génétique et fournit la catalyse. Alors, Patrick insistera sûrement là-dessus. L'hypothèse, c'est que assez rapidement, pour que la vie progresse, il faut aller plus loin, parce que, là, comme on le verra, l'ARN catalytique, c'est quand même pas très performant. En tout cas, ce qu'il en reste aujourd'hui est très limité. Donc, on ne peut pas imaginer qu'à un moment donné, très vite, on passe à un deuxième monde à ARN, qui est que j'appelle monde ARN protéine, dans lequel, en effet, l'ARN continue à porter l'information génétique et permettre la réplication, donc la prolifération, donc la vie, et que d'une certaine façon, les protéines apparaissent, traduisant le message qu'il y a dans l'ARN, et que ce sont les protéines qui fournissent le pouvoir catalytique. Voilà. Alors, très rapidement, pour quelles raisons tout ça est possible, ces hypothèses sont possibles. Je vous invite d'ailleurs à lire, il y en a peut-être eu d'autres, mais j'aime particulièrement cette revue, cet article de Patrick dans la revue Biochimie en 2005. Je vous invite à aller regarder cet article. Oui, le fait que le monde à ARN précède le monde à ADN est soutenu par un certain nombre d'arguments. Le premier, c'est évidemment que le stockage moléculaire de l'information génétique dans l'ARN, ça existe. Aujourd'hui, il y a des organismes qui stockent leur information génétique sur de l'ARN et pas sur de l'ADN. Et ce sont en particulier, un exemple, ce sont les virus à ARN. Que, évidemment, je l'ai dit, l'autoréplication par appariement de base fonctionne aussi bien pour l'ARN que pour l'ADN. Et comme on va le voir, en effet, les ARN peuvent avoir des activités catalytiques peuvent avoir un pouvoir catalytique, c'est-à-dire accélérer fantastiquement certaines réactions. Alors, il y a par ailleurs un certain nombre de questions qui peuvent remettre en cause cette hypothèse. C'est d'une part, est-ce que finalement, est-ce que le ribose est tellement plus disponible que le désoxyribose ? Je crois que ceci est un peu remis en cause, mais on peut voir dans la littérature ces arguments comme quoi, dans des réactions de type, de type Stanley-Miller, en mélangeant du CO2, du méthane, du formaldéhyde, de l'acide cyanitrique, de l'ammoniac, de l'hydrogène, de l'eau, en chauffant, etc., on détecte quand même des petites quantités de ribose et jamais des oxyriboses. Bon, je crois que cet argument est un peu fallacieux. Le ribose n'est pas plus facile à faire que le désoxyribose. Il n'est pas plus stable que le désoxyribose. Donc, voilà. Mais vous pouvez lire ça dans la littérature, des gens qui appuient le monde ARN en disant dans certaines conditions, il est plus facile d'obtenir du ribose. Je ne suis pas sûr et il n'y a pas plus de raison que le ribose l'emporte sur le désoxyribose dans l'évolution chimique de la vie. L'autre problème, c'est que l'ARN est particulièrement instable. Ça pose un problème par rapport à cette hypothèse. Il est même plus que l'ADN, et d'ailleurs, on va bien dire plus tard que si l'ADN arrive à un moment donné à la surface de la Terre, c'est parce qu'il y a des avantages, et en particulier un des avantages, c'est la stabilité. Alors, un des aspects de l'instabilité relative de l'ARN vis-à-vis de l'ADN, c'est en effet la présence de ce groupement hydroxyle qui fait que lorsque vous avez cette chaîne, l'hydrolyse, la cassure de ce lien phosphodiester peut être facilitée par la présence de ce groupement OH. Et donc ça, c'est un problème, et on voit bien qu'à partir du moment où vous remplacez ce groupement OH par un hydrogène, à ce moment-là, cette chimie d'attaque nucléophile de cet oxygène sur cet atome de phosphore qui libère, enfin qui casse de façon hétérolytique la liaison phosphore-oxygène ici, et cassant donc en deux la chaîne, ceci ne peut pas se produire dans l'ADN. Et troisièmement, pour le moment, après beaucoup d'enthousiasme, même si aujourd'hui il existe des ARN qui ont des activités catalytiques, ils sont assez rares, et leur puissance catalytique n'a strictement rien à voir avec les protéines. Donc un monde dans lequel il n'y aurait que de l'ARN est un monde difficile à imaginer quand même, mais en même temps, il faut bien que les choses commencent, elles peuvent être plus simples, et donc c'est quand même cette théorie qui prévaut aujourd'hui. Alors, des ribosymes, je voulais quand même... vous dire de quoi il s'agissait. En fait, ce sont des ARN qui ont des propriétés catalytiques. Cette découverte a quand même valu à Sidney Altman et Thomas Hetch le prix Nobel en 1989. Donc, il y a un certain nombre d'ARN qui ont des propriétés catalytiques, la ribonucléaspé, le ribosome, j'en reparlerai, des introns auto-épissables, des riboswitch, le spliceosome, et ici, voilà, vous avez un exemple de ribosyme où vous allez avoir une auto-cassure de l'ARN vous voyez ici cette chaîne, cette partie de la chaîne de l'ARN est attaquée par deux guanosines. Ces deux bases, par assistance acide-base, et vous avez une cassure de la liaison phosphodiester qui est normalement très stable et qui est ici coupée en deux. Donc, ce sont des activités, vous voyez, d'hydrolyse assez limitées. Il y a, à ma connaissance, aucun système de type ribosyme redox. Je ne connais pas. Et pourtant, comme vous le savez, la chimie redox, les oxydations, les réductions sont des choses extrêmement importantes dans le vivant, les transferts d'électrons et tout ça. Bon. Donc, c'est un monde ARN qui est, du point de vue catalytique, assez limité. Un argument pour dire que le monde ARN précède le monde ADN, et c'est là que je commence à introduire les ribonucléotides réductases, c'est que, en tout cas aujourd'hui, les précurseurs de l'ADN, les désoxyribonucléotides, ici je ne montre que le sucre, hein, le désoxyribose, encore une fois vous voyez la différence, le carbone hydrogène et le carbone OH, donc ces désoxyriboses qui sont polymérisés pour faire de l'ADN, dans toutes nos cellules, c'est comme ça que ça se passe, dans tous les organismes vivants, les désoxyribonucléotides sont synthétisés par réduction du des ribonucléosides correspondants. Donc c'est une réaction qui est catalysée par des enzymes qui s'appellent les ribonucléotides réductases, dont je parlerai abondamment, qui catalyse la transformation d'une liaison carbone-OH en carbone-hydrogène en position 2' du ribose. Il n'y a pas de contre-exemple. Tous les organismes synthétisent leur désoxyribonucléotide à partir du ribonucléotide. Donc, ceci est une indication, peut-être une indication assez forte, que, en effet, les riboses, les ribonucléotides, les ribonucléosides sont pionniers dans l'évolution chimique de la vie et qu'ensuite est apparue une activité qui a permis de transformer la liaison carbone-OH en liaison carbone-hydrogène. De la même façon, j'ai indiqué qu'il y avait une différence entre l'uridine et la thymidine avec l'introduction de ce méthyl. Eh bien, en effet, là aussi, la synthèse de la thymidine qui est incorporée dans l'ADN se fait par méthylation de l'uridine qui est présente dans l'ARN par cette enzyme qui est la thymidylate synthase, dont je ne parlerai plus. Mais là encore, donc, tous les précurseurs de l'ARN sont synthétisés à partir de ribonucléosides et ribonucléotides. Ensuite, argument sur le monde ARN est suivi par un monde ARN protéine. Alors, là aussi, on voit bien dans les séquences, l'ARN, donc un argument de ceci, que les protéines arrivent ensuite, c'est que l'ARN est absolument nécessaire à la synthèse des protéines. Donc vous savez qu'une des grandes fonctions des ARN, c'est la lecture du message génétique, c'est la traduction en protéines. Donc les ARN messagers, les ARN de transfert, et comme je vais le montrer, le ribosome est un ribosyme. Toute la machinerie de synthèse des protéines dépend des ARN. Ici, vous pouvez trouver mille fois ce genre de schéma. Vous voyez qu'actuellement, l'ADN est transformé en ARN messager, et cet ARN messager qui est traduit ensuite en protéines nécessite, évidemment, l'ARN messager, des ARN de transfert et le ribosome, qui est la machinerie de synthèse, de traduction de l'ARN messager. Et ce ribosome, comme vous allez le voir, c'est en effet essentiellement de l'ARN. Donc, pas de doute que... c'est assez imaginable donc, que l'ARN messager a pu, à un moment donné, se transformer en protéine. Et ça, c'est aussi une magnifique réalisation hein, des biochimistes. C'est la structure cristallographique du ribosome qui a aussi valu prix Nobel à ses auteurs. Comme vous le voyez ici, donc c'est une machinerie extrêmement complexe, mais ici est représentée en jaune la partie protéique et en blanc la partie ARN. Et comme vous le voyez, cette enzyme qui est responsable de la synthèse des protéines est essentiellement un ARN avec des petits bouts de protéines accrochés. Et en effet, tout le travail sur le ribosome a conduit à démontrer que la formation de la liaison peptidique entre deux acides aminés portés par des ARN de transfert. Donc vous voyez la formation ici de cette liaison NHCO, donc liaison peptidique, est catalysée par une adénine, donc par une partie ARN du ribosome. Cette adénine utilise son pouvoir basique pour déprotoner ici cette amine, qui ensuite devient suffisamment nucléophile pour attaquer le carbonyle et former la liaison azote-carbone. Donc toute la chimie de la liaison peptidique, la formation de la liaison peptidique, c'est une chimie fournie par un ARN. Donc tout converge, si vous voulez, pour soutenir cette idée que l'ARN est arrivé dans un premier temps, pouvait porter l'information génétique, avait un début de pouvoir catalytique, et puis a pu, par des mécanismes malgré tout assez complexes, conduire à un deuxième temps à la production de protéines qui vont pouvoir faire de la catalyse, évidemment, beaucoup plus efficacement. Oui, on peut accumuler comme ça tout un tas d'arguments quand on a envie de soutenir cette idée, que vous avez aussi certains acides aminés qui sont synthétisés à partir de ribonucléotides. Hein, par exemple, l'histidine, qui est donc cet acide aminé-là, est synthétisé à partir de phosphoribosyl pyrophosphate. Voilà, ce type de molécules par tout un tas d'étapes assez complexes. Je ne rentre pas dans le détail, mais voilà. On a aussi des acides aminés par transformation de ribonucléotides. On observe aujourd'hui que un très grand nombre de cofacteurs qui sont absolument nécessaires à l'activité enzymatique, à l'activité des protéines, sont des molécules qui ont un relan de monde à ARN protéines, qui sont de façon assez convergente, c'est vraiment une chose étonnante. Ce sont des molécules qui nous rappellent ce que pourrait être un monde ARN protéines, ou ARN en tout cas. Si vous prenez le NADH, par exemple, eh bien c'est un ribonucléotide. Le NADH, c'est un des puissants réducteurs du monde vivant, une source d'électrons très importante pour tout un tas de processus biologiques. Le FAD, qui est un ribonucléotide, qui est une molécule de transfert d'électrons. Alors voilà une molécule dont je parlerai abondamment tout au long de mon cours, c'est la S-adénosylméthionine, qui est ce sulfonium à droite en haut, hein, je crois que mon truc ne marche plus. Vous pourriez pas prévenir Nicolas Non. D'accord. Donc cette S-adénosylméthionine, qui est ce sulfonium, qui est un ribonucléoside, qui est une molécule qui est extrêmement importante comme agent méthylant. Vous voyez en jaune, ce que vous voyez, c'est le méthyle de cette molécule qui est utilisé aujourd'hui comme agent méthylant, et vous verrez pour d'autres choses. L'ATP, bien sûr, qui est un ribonucléotide. Et on continue, le coenzyme A, dont vous voyez la structure en haut à gauche, le coenzyme B12, l'adénosylcobalamine, vous voyez, alors, ça devient plus complexe, mais en haut, vous avez le groupement 5'-déoxyadénosine, c'est un ribose, porté par un atome de cobalt. Voilà. Donc, je crois que tout converge pour dire qu'il y a eu cette étape où le monde ARN était insuffisant, on passe à un monde ARN protéines. Alors, comment ça se passe? Ce n'est pas si facile que ça, bien sûr. Peut-être que dans un premier temps, il y a eu des petits peptides, et dans un cours précédent, j'ai raconté comment, à la surface des fumeurs noirs, c'est toute la chimie de Wachterhauser, où à la surface de sulfure, de nickel et de fer, vous pouvez avoir des petites molécules qui s'assemblent pour donner éventuellement des acides aminés et même des peptides. Donc vous pouvez avoir des petits peptides qui existent, qui se rajoutent à des ribosymes. Ensuite, petit à petit, vous pouvez avoir une atrophie de la partie ARN pour avoir de plus en plus de protéines. Et puis, avec le temps, parce que tous les cofacteurs que je vous ai présentés, que ce soit des réducteurs, des agents méthylants, des porteurs d'énergie comme l'ATP, des sources de radicaux comme la vitamine B12, etc., tout ça a été conservé parce que c'était extrêmement utile. Mais quand même, une des grandes révolutions, c'est l'arrivée d'une activité de type ribosome, qui est peut-être assez tôt dans l'évolution, puisque c'est un ribosyme, c'est essentiellement de l'ARN, mais le ribosome a été une invention majeure du vivant pour passer au monde protéine. Voilà. Alors, ensuite, dernière étape, c'est le passage au monde à ADN. Donc, pourquoi cette nécessité? Pourquoi ce monde a... Il n'y a plus de jus dans le... Merci. C'est par télépathie que nous avons... Non, communiqué. Bon. Et voilà. Pourquoi cette nécessité du passage au monde ADN? Visiblement, ce monde ARN-protéine était insuffisant. Pourtant, les protéines sont là. Il y a tout le pouvoir catalytique qui est fantastiquement amélioré. Il y a le monde, il y a l'ARN qui permet donc le transport de l'information génétique. Donc tous les mécanismes de traduction peuvent être là, traduction en protéines, donc il y a tout ce qu'il faut. Bon, il y a tout un tas d'inconvénients à l'ARN. Comme je l'ai dit, il y a son instabilité. Donc probablement l'argument, il faut un support de l'information génétique beaucoup plus stable que l'ARN. Et la simple transformation de la liaison OH en liaison H en 2' fournit une partie de la solution. Comme je vous l'ai dit, vous voyez au milieu à droite, c'est à nouveau cette réaction de cassure des acides nucléiques, enfin des ARN, par hydrolyse de la fonction phosphodiester. Donc l'ADN, c'est un peu plus stable. Bon, l'ADN aussi permet une réplication plus fidèle, peut-être des réparations plus efficaces, plus fidèles. J'ai donné comme exemple, vous voyez qu'en bas, il y a de multiples processus de dégradation de l'ADN, de dégradation chimique de l'ADN. Un des processus, parmi tant d'autres, c'est par exemple, comme vous le voyez dans le schéma en bas, à droite, c'est la désamination de la cytidine. On passe de la cytidine à l'uridine, et ce faisant, évidemment, on tombe sur un nucléoside sur une base nucléique qui est présente dans l'ARN. Donc si ces choses-là se produisent dans l'ARN, l'ARN ne sait plus, enfin l'organisme vivant ne sait plus si l'uridine vient de la dégradation de la cytosine, de la cytidine, ou est une des bases de la séquence. Comme ce processus est quand même très fréquent et assez facile, cette désamination de la cytidine, en effet, lorsque on passe à l'ADN, lorsque vous avez une désamination de la cytidine dans l'ADN et qu'apparaît une uridine, ça se voit tout de suite. Et en effet, le vivant a élaboré des mécanismes de réparation, notamment par l'existence de cette uracile DNA glycosylase, qui est une enzyme qui reconnaît la modification, la présence d'uridine dans l'ADN, l'enlève et remet la bonne base à la place. Voilà. Donc il y a tout un tas de raisons pour lesquelles l'ADN est utile. Et à ce moment-là, on passe à un monde à ADN que je résume de la façon suivante. L'ARN est conservé, mais il y a maintenant un niveau supplémentaire qui est l'ADN, qui est le porteur de l'information génétique. On n'a rien changé à la partie du bas, vous voyez, ARN, protéine, catalyse. On a simplement introduit un élément, et l'ADN... Donc porte l'information génétique exclusivement, merci, et il faut ensuite des mécanismes de, si on conserve ça, parce que la nature a considéré que ça marchait assez bien, les mécanismes de traduction de l'ARN en protéines, à ce moment-là, l'ADN est introduit à ce niveau-là, et il faut inventer, évidemment, des mécanismes de transformation de l'ADN en ARN. C'est pas simple, mais voilà, donc il y a cette étape-là. Alors évidemment, l'arrivée de l'ARN, quand on est dans un monde où il n'y a que du ribose, que des ribonucléotides, ça dépend de l'arrivée à la surface de la Terre d'une activité enzymatique qui est capable de transformer les riboses en désoxyriboses. Donc ça, c'est une révolution dans le vivant. C'est le jour où un organisme vivant, parce que là, ce n'est pas de la chimie prébiotique, comme vous allez le voir, c'est de la chimie extrêmement complexe, et donc on est déjà avec des organismes vivants, complexes, avec des membranes, avec tout ce que je vous ai raconté. Donc il a fallu que, et Patrick va beaucoup discuter de ça, je pense, de comment ça s'est passé, et qui est responsable, mais en tout cas il y a quelqu'un qui est responsable à un moment donné de l'invention d'une chimie qui permet de transformer les riboses en désoxyriboses. Alors, en parlant de cela qui va occuper une très grande partie de mon cours, on va évoquer les différentes ribonucléotides réductases qui existent aujourd'hui dans le monde vivant, parce qu'il n'y en a pas qu'une d'enzyme, il y en a plusieurs. Et ensuite, on se posera la question à la fin, mais quelle est celle qui a inventé l'ADN au bout du compte ? Je ne peux pas m'empêcher de vous montrer ici une photo de Peter Reichard, qui est, de mon point de vue, un des grands biochimistes du XXe siècle, qui est encore vivant, qui est encore actif. Il est à la retraite depuis 20 ans, mais il est toujours actif. Et ce monsieur, qui est un Autrichien d'origine, qui a quitté l'Autriche pendant la guerre et qui est allé en Suède, où il a fait sa carrière, et celui qui a découvert la ribonucléotide réductase, donc responsable de cette transformation, dans un premier temps, dans les années, vous voyez, dans les années 60, les ribonucléotides réductases des organismes aérobies, comme nous, les mammifères, les plantes, enfin, etc. Je décrirai ce système qui est vraiment tout à fait passionnant. Voilà tout un tas d'étapes de son travail. L'évidence d'une activité ribonucléotide réductase en 1960. Les mécanismes de régulation allostérique, j'en dirai quelques mots, c'est un des plus beaux exemples de systèmes soumis à une régulation allostérique. Pour la première fois, il purifie l'enzyme en 1969 et il découvre entre les années 70 et 80 que c'est une enzyme radicalaire. C'est là qu'intervient pour la première fois. C'est la première fois qu'on découvre une enzyme dans laquelle vous avez des radicaux stables et qui fonctionnent par des mécanismes radicalaires extrêmement complexes. Et j'essaierai de décrire cela. Voilà. Alors, cette découverte de la ribonucléotide réductase et de son mécanisme radicalaire a été quelque chose d'assez inouï sur le plan de la biochimie, de la biologie, et même encore aujourd'hui. Même encore aujourd'hui, les gens ne réalisent pas, et j'espère qu'au moins vous sortirez de ce cours, enfin de celui-là et des autres, en étant sorti de ce dogme qui prévaut aujourd'hui en biologie, à savoir que les radicaux libres, que je définirai rapidement, sont des espèces tellement réactives, tellement peu contrôlables, tellement instables, qu'on ne peut pas faire de la bonne chimie avec, et alors donc le vivant encore moins, et qu'au contraire, ce sont des espèces qui sont tellement réactives que lorsqu'ils se produisent dans l'organisme vivant, ils conduisent à des dérégulations, à des pathologies, et vous savez sans doute qu'il y a toute une littérature, d'ailleurs, je ne dis pas que c'est faux, c'est vrai que qu'il y a certains radicaux qui conduisent à des dégradations du vivant, mais il y a tout un tas de théories sur l'intervention des radicaux libres dans le vieillissement, et je pense que c'est vrai, et dans un certain nombre de pathologies, en particulier les maladies neurodégénératives. Mais ce que je voudrais vous dire aussi, c'est que la nature a trouvé des solutions dans certaines situations pour créer des radicaux, les contrôler suffisamment pour faire de la chimie extrêmement sélective et extrêmement intéressante qu'on ne pourrait pas faire sans passer par une chimie radicalaire. Alors, qu'est-ce que c'est que ces radicaux libres ? Ces radicaux, ce sont des entités en ayant perdu un électron ou en ayant gagné un électron, se retrouvent avec des électrons célibataires, avec des électrons qui ne sont pas associés à un autre électron dans une paire, et étant dans cet état-là, c'est un état qui est énergétiquement instable, et ce qui explique que des entités qui ont des électrons célibataires comme ce X point, ça peut être un radical carboné, ça peut être un radical oxygéné, comme le radical hydroxyle, qui est souvent invoqué dans les problèmes de pathologie radicalaire. Ces entités-là font tout ce qu'ils peuvent pour récupérer un électron ou perdre cet électron et retomber dans un état plus fondamental. Et certains de ces radicaux, je redis à nouveau le radical hydroxyle, certains de ces radicaux sont extrêmement réactifs, en effet, vis-à-vis de l'ADN, vis-à-vis des protéines, vis-à-vis des lipides, et c'est tout le domaine qu'on appelle le stress oxydant qui occupe une grande partie des biologistes. Comme vous le savez, cette notion de stress oxydant conduit conduit un certain nombre. Enfin, vous avez sans doute avant. Enfin, conduit un certain nombre d'entreprises pharmaceutiques à développer des médicaments ou des systèmes qui s'opposent à ce stress oxydant. Donc c'est un domaine qui est tout à fait important. Alors, ici, mais bon, c'est vraiment très simple hein, pour un chimiste, mais en gros, ce radical X point, alors le point ici indique la notion de radical, indique la présence d'un électron célibataire, et ces entités-là réagissent soit globalement en perdant un électron, soit en récupérant un électron. Et donc, ces radicaux sont extrêmement réactifs, ils peuvent soit réagir avec une deuxième molécule de radical pour former une nouvelle liaison et former ce XX, et alors là, ça s'arrête, soit réagir avec des composés aromatiques pour donner un autre radical, mais ça a créé une liaison carbone X, soit arracher un atome d'hydrogène sur une molécule, et à ce moment-là, ce X devient XH et ne bouge plus, n'est plus réactif. Par contre, il crée ici aussi un nouveau radical, donc vous pouvez avoir des réactions radicalaires en chaîne, c'est d'ailleurs ce qui fait un problème de ces radicaux. Donc il peut acquérir un électron pour devenir X- ou acquérir un électron pour devenir XH s'il y a un proton. Donc il y a tout un tas de réactions, et effectivement, ceci se fait de façon extrêmement efficace. Donc, quand Peter Richard, parce que c'est vraiment la première fois, quand Peter Richard dit à la communauté scientifique la synthèse de l'ADN, la synthèse des désoxyribonucléotides, la synthèse de l'ADN donc, dépend de la présence d'un radical dans la ribonucléotide réductase, dépend d'une chimie radicalaire, il met extrêmement longtemps pour se faire comprendre et pour que ce soit accepté, véritablement. D'ailleurs, pendant très longtemps, le signal, je le dirai, mais le signal qu'il attribuait, enfin le signal de résonance paramagnétique électronique qui indiquait ce radical, pendant très longtemps, même eux n'y croyaient pas et ont essayé de démontrer que c'était un centre métallique un peu particulier qui avait ce signal, qui était paramagnétique. Voilà. Donc, alors, la réalité par rapport à ce dogme, et ça c'est un message important, je crois qu'il faut que les biologistes l'entendent, et les chimistes aussi, c'est qu'en réalité, il y a des centaines, et j'évoquerai une grande famille d'enzymes radicalaires, il y a des centaines de réactions biologiques qui sont radicalaires. Il y a des tas d'enzymes qui prennent leur substrat et qui le transforment en radical intermédiaire, et qui ont mis en œuvre une stratégie extrêmement fine pour contrôler ce radical, pour le convertir dans le produit désiré, sans que ce radical aille taper un peu partout, de façon incontrôlée. Et au cours de ces cours, j'évoquerai le cas des ribonucléotides réductases, bien sûr, mais d'autres enzymes, et j'introduis tout de suite ce terme, la famille radicale SAM. C'est de mon point de vue une des grandes découvertes de l'enzymologie de ces dernières années. Vous allez voir qu'il s'agit d'une famille d'enzymes qui intervient dans des centaines de réactions métaboliques et de biosynthèse, dans des réactions de réparation d'ADN, de transformation d'ARN de transfert, de modification de protéines, de biosynthèse des antibiotiques, de biosynthèse de cofacteurs, enfin, de biosynthèse d'acides aminés, de métabolisme d'hydrocarbures, enfin, etc., etc., etc. Je raconterai tout ça. Alors, pourquoi il faut des radicaux dans le cas de la synthèse des désoxyribonucléotides ? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire ça autrement, plus calmement, de façon électrophile, en faisant intervenir des carbocations, des anions et des cations, enfin de la chimie organique plus classique. Voilà, ce que je voudrais vous montrer, c'est que, très simplement, hein, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais finalement, quand vous avez une liaison carbone-OH ici, que vous voulez transformer en carbone-hydrogène, finalement, il faudrait faire une réaction de substitution nucléophile avec un hydrure. Ça peut être une substitution nucléophile de type 1, SN1, où vous faites partir cet OH sous forme d'OH- et vous trouvez avec un carbocation. Et ensuite, si vous avez un hydrure, parce que c'est une réduction, hein, donc c'est une réduction à deux électrons. Si vous avez un hydrure, vous attaquez ce carbocation et ça marche bien, normalement. L'autre façon de faire, c'est une réaction de substitution nucléophile d'ordre 2, un hydrure qui viendrait attaquer de façon concertée, se formerait la liaison carbone-OH avec départ de l'anion hydroxyle. Ben, les chimistes ont essayé de faire ça. Ça ne marche pas. Personne n'a jamais réussi à faire un désoxyribonucléotide en prenant un ribonucléotide et un donneur d'hydrure. Ça ne marche pas. Les SN2 ne marchent pas, probablement pour des raisons stériques. Cet hydrogène est quand même très, très protégé. La SN1, globalement, ne marche pas parce que, à cause de cet oxygène, et à cause de cet oxygène-là, les carbones adjacents sont déjà assez déficients en électrons et former un carbocation ici est pas du tout évident, pas du tout facile. Donc ça ne marche pas. Aujourd'hui encore, on peut essayer, mais personne n'est jamais arrivé à faire une réduction en une seule étape à deux électrons des ribonucléosides. Par contre, justement, les chimistes y sont arrivés par voie radicalaire. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en particulier, Derek Barton, prix Nobel de chimie, qui a passé une partie importante de sa carrière en France. Il a été directeur de l'Institut de chimie des substances naturelles à Gif-sur-Yvette. A inventé un certain nombre de... C'est un grand chimiste organicien, vraiment. Il a inventé des tas de réactifs, des tas de réactions. Et il a participé à la découverte de méthodes pour désoxygéner des alcools. Parce que, vous voyez, un ribose en désoxyribose, c'est une désoxygénation d'alcool. Encore une fois, transformer en alcool ROH en RH, ça ne marche pas directement. Donc, en gros, il faut activer l'alcool par un groupe X, ensuite créer un radical et produire le radical R point correspondant qui ensuite arrache un atome d'hydrogène quelque part et devient RH. Donc aujourd'hui, les chimistes, pour faire de la désoxygénation d'alcool, en particulier, peuvent utiliser des méthodes mais qui impliquent des radicaux. Voyez ici, par exemple, un diol, un glycol, comme celui-là, pour arriver ici, donc c'est un peu l'équivalent donc, de notre ribonucléoside qu'on transforme en désoxyribonucléoside. Donc si vous activez cette fonction OH avec un thioester ici, et que vous faites réagir un réactif qui génère des radicaux, vous pouvez faire ce RH. Alors comment ça se passe ? Cette molécule AIBN que vous chauffez crée ce radical. Ce radical ensuite arrache un atome d'hydrogène au tributyléthin pour donner un deuxième radical. Ce radical ensuite se rajoute à votre substrat activé pour donner une entité radicalaire intermédiaire par addition sur la double liaison carbone-soufre. Vous voyez, c'est ce radical tributyléthin qui se rajoute sur le soufre. Et ayant créé un radical adjacent à la liaison carbone-oxygène que vous voulez casser, ça facilite la cassure de la liaison carbone-oxygène de façon homolytique pour donner le radical R point, qui ensuite réagit avec le tributyléthin pour donner RH. Voilà le type de chimie qui est possible pour transformer un désoxyribose en ribose, et comme vous le voyez, c'est radicalaire. Cette chimie-là, qui est assez générale, a été appliquée à des ribonucléosides, et ça a été en particulier le travail de Robbins. Bon, je ne rentre pas dans le détail, mais voilà. Il est possible de transformer des ribonucléosides en désoxyribonucléosides en particulier en utilisant cette chimie radicalaire à partir d'initiateurs de radicaux et de tributylétains.
Voilà. Alors, et je crois que j'en ai terminé, on reste... Le passage du monde à ADN, au monde à ADN, a impliqué une étape fondamentale qui a été l'invention d'une ribonucléotide réductase, d'une enzyme qui était capable de transformer les ribonucléosides en désoxyribonucléosides. Ce n'est que parce qu'il y a eu cette étape-là que le monde à ADN a été possible, le monde à ADN que nous avons actuellement. Ça, c'est la première information. La deuxième information, c'est que cette chimie de formation des désoxyribonucléotides ne peut être que radicalaire. Et donc, ce que je vais essayer dans la suite de mon cours de vous montrer, c'est, dans tout le monde vivant actuel, comment se font les désoxyribonucléotides. Et on aura une vision contrastée de cela. Pourquoi ? Parce que d'une part, on fera la constatation que toutes les ribonucléotides réductases qui existent à la surface de la Terre aujourd'hui ont un certain nombre de choses en commun, et en particulier une structuration du site actif qui aura dans tous les cas une cystéine particulière ici, sur une boucle, où va se former un radical. Un radical cystéinyl, un électron célibataire va se positionner sur cet atome de soufre ici, dans toutes les ribonucléotides réductases, ça sera la clé, ça sera la solution pour la réduction des ribonucléotides. Par contre, je dis contrasté parce que, à l'inverse, il y aura une très très grande diversité de faces, de chimie, de formation de ce radical. Parce que pour qu'il y ait un radical ici, il faut qu'il y ait une chimie qui le crée. Et là, on verra qu'il y a une très très grande diversité. On verra qu'il y a des systèmes qui auront besoin d'oxygène et de fer. On verra qu'il y aura des systèmes qui auront besoin de S-adénosylméthionine et de cluster fer-soufre. On verra qu'il y a des systèmes qui ont besoin de vitamine B12 et d'adénosylcobalamine. Des choses extrêmement différentes. Et la question qu'on se posera, c'est, tout ça, c'est ce qui existe aujourd'hui. Est-ce que dans tous ces systèmes-là, est-ce qu'il y en a un qui ressemble plus à la ribonucléotide réductase primitive, la première qui a été inventée et qui a permis le passage du monde à ARN au monde à ADN. Et alors, pourquoi ce radical-là ? Parce que, en effet, on verra que la chimie de la ribonucléotide réductase, ça sera presque toujours, enfin, ça sera toujours dans le site actif la formation d'un radical sur une cystéine. Pourquoi ? Parce que ce radical-là va servir à créer un radical sur le ribonucléotide substrat. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de chimie hétérolytique possible, donc il faut faire une chimie radicalaire. Ça passera par un arrachement d'atomes d'hydrogène sur ce carbone, pas celui-là, pas le carbone qui va perdre l'OH, mais le carbone adjacent. Tout ça a été très bien montré par des réactions de marquage, enfin, etc. Et que c'est parce que ce radical est créé qu'ensuite... il peut y avoir une réduction à deux électrons pour transformer dans une chimie extrêmement complexe, mais qu'on détaillera, pour transformer le carbone OH en liaison carbone H. L'hydrogène arraché ici, se retrouvant sur la cystéine, étant ensuite redonné à cet endroit-là à nouveau. Donc l'hydrogène, c'est marrant ici, il bouge, puisqu'il passe de là à là, et ensuite, il revient. Et alors, ce qui est intéressant dans ce mécanisme-là, c'est que finalement, au bout du compte, pour faire une réduction à deux électrons du déoxyribonucléotide en ribonucléotide, c'est l'inverse, une réduction à deux électrons du ribonucléotide en désoxyribonucléotide, la nature invente une ribonucléotide réductase qui commence par une oxydation à un électron. Donc, pour faire une réduction à deux électrons, la chimie commence par une oxydation à un électron qui est ensuite suivie par une réduction à trois électrons. Deux électrons plus le SH qui redevient S point ici.
Donc c'est quelque chose de tout à fait particulier, mais encore une fois, c'est lié à la difficulté de réduire les ribonucléotides en désoxyribonucléotides. Alors, vous imaginez bien, voilà, j'ai fini. Vous imaginez bien que pour faire une chimie aussi complexe que ça, évidemment, ça n'est pas arrivé, ça n'est sûrement pas arrivé dans les conditions de Stanley Miller. Je reviens à ma première diapositive. C'est pas possible. On est déjà très loin dans l'évolution. Il a fallu des systèmes déjà très élaborés. Et tout ça confirme cette hypothèse que l'ADN est un produit tardif de l'évolution. Voilà, c'était mon introduction pour la suite du cours. La semaine prochaine, je vous raconterai comment, dans nos cellules, les cellules de mammifères, on fait ces désoxyribonucléotides. Ça a énormément d'impact sur le plan chimique, mais aussi sur le plan pharmacologique, parce que les ribonucléotides réductases, qui sont importantes pour la biosynthèse de l'ADN, sont aussi considérées comme des cibles thérapeutiques, comme si vous bloquez cette enzyme, vous bloquez la synthèse de l'ADN, donc vous pouvez bloquer la prolifération cellulaire, et donc il y a des médicaments anticancéreux qui ciblent cette enzyme-là. Je parlerai de cela aussi. Voilà. Donc, merci. Et si vous avez des questions, je les prends. Mais on peut continuer à discuter de toute façon après la présentation de Patrick. Voilà, merci.